VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du lundi 12 octobre 2015. Au sommaire ce soir...
Présidentielle en Guinée, les 7 concurrents du président Alpha Condé crient à la fraude et rejettent d'avance les résultats du scrutin.
Nous avons le droit de manifester, on le fera. Il ne faut pas se cacher la figure. Lorsque nos droits sont violés, nous n'avons pas d'autre recours, il n'y a pas d'institution.
C'est l'eau d'Alain Diallo. Burkina Faso, le nouveau directeur de la justice militaire, entre en fonction.
Nous avons le dossier Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso.
Le colonel Sita Sangaré.
Un coup d'œil ce soir sur l'impact économique des récentes violences en Centrafrique.
Première conséquence visible, la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires sur les marchés, résultat direct de la pénurie ou de la rareté de ces denrées.
Et notre dossier quotidien sur la crise des migrants.
Chaque jour ou presque, le rituel est le même dans un port sicilien, érythréen, soudanais, malien ou libyen. Ils débarquent par centaines en Italie.
On écoutera le reportage de notre envoyé spécial en Italie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, les 7 candidats à l'élection présidentielle face au président sortant décident de ne pas reconnaître les résultats du scrutin du 11 octobre. Ils ont dénoncé des fraudes et des irrégularités au cours d'une conférence de presse à Conakry, à laquelle a assisté notre correspondant Zakaria Camara.
Les micros sont passés devant chaque candidat et Fayami Limono de dire, en utilisant « nous », l'intention de l'opposition de jouir des recours légaux. À son tour, Mme Marie-Madeleine a appelé les militants de l'opposition à rester calmes et à ne pas descendre dans les rues.
Ce que je veux dire tout simplement, c'est de dire à tout le monde de ne pas sortir dans la rue, de ne pas même des fois écouter ses leaders. S'ils demandent de sortir dans la rue, de ne pas écouter.
Son de cloche différent du chef de file de l'opposition, celui d'Alain Diallo, s'est voulu beaucoup plus précis et envisage même des manifestations de rue.
Nous avons le droit de manifester, on le fera, il ne faut pas se cacher la figure. Lorsque nos droits sont violés, nous n'avons pas d'autre recours, il n'y a pas d'institution qui peuvent constituer des recours crédibles. Nous allons exercer nos droits, tous nos droits, pour faire prévaloir nos droits.
Pas de déclaration commune au cours de cette conférence de presse, ouverte par le doyen de candidat, l'ancien Premier ministre Sidya Touré, mais fermée par Seydou d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, le colonel Sita Sangaré a été installé ce matin dans ses fonctions de nouveau directeur de la justice militaire. C'est cette juridiction qui aura la charge de juger l'affaire Thomas Sankara, mais surtout l'affaire du coup d'État du 17 septembre. On écoute Sita Sangaré au micro de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Nous avons le dossier Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso. Que des collaborateurs sont en train d'instruire et cela requiert certainement de la patience, également la compréhension de tout le monde. Et la compétence de ce dossier revenait de plein droit au tribunal militaire. S'agissant d'atteinte à la sûreté de l'État, le code de justice militaire est formel. Lorsque des militaires sont impliqués dans une tentative ou bien dans une atteinte à la sûreté de l'État, c'est la compétence pleine et entière de la juridiction militaire. Et le tribunal militaire ayant obtenu l'ordre de poursuite, le juge d'instruction civile initialement saisi a rendu la seule décision logique qui s'imposait, à savoir se déclarer incompétent et transmettre l'ensemble de la procédure au tribunal militaire. Et donc, prenant la relève, les juges d'instruction militaire qui ont été désignés ont confirmé l'ordonnance de gel. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Le colonel Sita Sangaré.
Au Burundi, le gouvernement affirme que la situation sécuritaire au troisième trimestre 2015 est globalement bonne sur toute l'étendue de la République. Dans un point presse, le ministre de la Sécurité publique a toutefois déploré la persistance de meurtres ciblés. On compte au moins 130 assassinats en 3 mois. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kounziza.
Des cas d'insécurité ont été recensés par la police ces trois derniers mois, selon le ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Plusieurs cadavres sont quotidiennement découverts dans plusieurs endroits de la capitale. Le ministre Bougnoni a affirmé que 130 cas d'assassinat ont été répertoriés, en plus de 48 tentatives d'assassinat. En outre, il indique que 28 cas d'incendie criminel ont été observés un peu partout dans le pays. Plusieurs armes, dont 3 lance-roquettes, 5 bombes, ont été saisies par la police. Le ministre burundais de la Sécurité publique indique aussi que plus de 3500 dossiers pénaux ont été traités par la police judiciaire et transmis aux différents parquets du Burundi. Plus de 3000 personnes ont été appréhendées par la même police. Alain-Guillaume Bougnoni recommande à la population de dénoncer les criminels et de fournir à la police toute information susceptible de faire avancer les dossiers. Il est à signaler que 2 personnes ont également été tuées dimanche soir au nord de la capitale. Rappelons que le Burundi a retiré son agrément à l'ambassadeur de Belgique à Bujumbura suite à une dégradation de confiance entre les deux pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Présidentielle au Rwanda, la Chambre des députés a commencé aujourd'hui l'examen du projet de réforme de la Constitution, un texte qui pourrait permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017.
Une guerre au Soudan du Sud, l'Ouganda prévoit de retirer ses troupes d'ici début novembre. Kampala entend ainsi se conformer au terme de l'accord de paix signé fin août entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Des milliers de soldats ougandais ont combattu aux côtés des troupes du président sud-soudanais Salva Kiir contre les forces dirigées par son ancien vice-président Riek Machar depuis le déclenchement de la guerre civile en décembre 2013.
Crise en Libye, le gouvernement non reconnu par la communauté internationale a rejeté la proposition de gouvernement d'union nationale mise sur la table par l'émissaire de l'ONU. Bernardino León avait annoncé vendredi qu'un consensus avait été trouvé sur le nom d'un premier ministre et de 17 ministres d'un gouvernement d'unité.
Et en Égypte, la justice a ordonné la remise en liberté des 2 fils de l'ex-président Hosni Moubarak en Égypte. Alaa et Gamal Moubarak avaient été condamnés en mai à 3 ans de prison dans une affaire de corruption.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de l'Europe demande à la Russie de cesser immédiatement ses attaques militaires ne visant pas le groupe État islamique ou d'autres organisations désignées par l'ONU comme des entités terroristes. Hier, Vladimir Poutine avait précisé que son intervention en Syrie ne cherche qu'à renforcer le gouvernement de Bachar al-Assad afin de favoriser un compromis politique dans ce pays. Selon le ministère russe de la Défense, 53 cibles ont été touchées dans les dernières 24 heures, notamment dans les provinces d'Idlib et de Latakia.
Poursuite dans la colère des funérailles des militants de la cause kurde tués 2 jours plus tôt dans une attaque. Les cérémonies d'enterrement ont tourné en manifestation contre le gouvernement islamo-conservateur. Les détails avec Eddy Sango.
Aucun représentant du gouvernement n'a participé à ces enterrements qui se sont poursuivis à Ankara et dans d'autres villes. Certaines des 97 personnes tuées dans l'attentat le plus meurtrier de l'histoire à Ankara ont été mises en terre lundi. Les chefs de file du Parti démocratique du peuple, HDP, pro-kurde, Selahattin Demirtas, a participé à plusieurs cérémonies funéraires dans la plus grande ville devant des cercueils recouverts de couleurs kurdes, jaune, rouge et vert. Près de 2000 personnes ont participé à la cérémonie dans les districts de Gazi et scandé des slogans hostiles au président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan et à son régime, criant notamment « État meurtrier ». Erdogan meurtrier. Le premier ministre Ahmet Davutoğlu a affirmé lundi que les groupes djihadistes État islamique étaient considérés comme les suspects numéro 1 de l'attentat.
Nouveau bilan de la bousculade de Mina à la Mecque. Les 31 pays affectés, dont 22 en Afrique, ont enregistré au moins 1608 morts. Le premier bilan officiel des autorités saoudiennes, le 26 septembre, faisait état de seulement 769 morts. De plus, signale l'AFP, de nombreux pèlerins sont toujours portés disparus. La précédente catastrophe la plus grave survenue lors du grand pèlerinage musulman remonte au 2 juillet 1990, quand une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1426 morts.
L'Union européenne a donné aujourd'hui son feu vert à une suspension des sanctions européennes contre le Bélarus après la réélection dans un climat apaisé du président Alexandre Loukachenko. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Harlem Désir. Cette mesure est également liée à la libération de plusieurs prisonniers politiques.
L'américano-britannique Angus Deaton, enseignant à l'université Princeton dans le New Jersey, a reçu aujourd'hui le prix Nobel de l'économie pour son analyse des questions liées à la consommation, la pauvreté et le bien-être social. Son livre de référence, La Grande Évasion, Santé, Richesse et Origine de l'Inégalité, a été publié en 2013. Et dans ce livre, l'économiste décrit un monde plus vivable grâce au progrès de la santé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Maurice va ouvrir des bureaux en Europe et en Asie afin de promouvoir les investissements étrangers sur l'île, mais aussi pour mieux soutenir les exportations des produits locaux. L'île Maurice prend les devants. La croissance pour 2015 a été révisée à la baisse, passant de 4,1% à 3,6%, et les investissements ont chuté par rapport à 2014. Un bureau ouvre en novembre à Johannesburg, une antenne suisse et une britannique devraient voir le jour avant la fin de l'année. Pour l'Asie, une agence sera ouverte à New Delhi en 2015 et à Beijing au premier trimestre 2016. L'économiste et professeur à l'université de Princeton, Angus Deaton, a remporté le prix Nobel d'économie pour ses recherches sur la consommation, en particulier celle des pauvres, étudiant par exemple la relation entre les revenus et le nombre de calories consommées, ou encore l'ampleur de la discrimination entre les sexes au sein de la famille. Angus Deaton.
Je suis absolument ravi, pas seulement pour moi, mais que ce travail ait été reconnu. Comprendre les ressorts de la pauvreté et ce qui rend les gens heureux, ce qui rend leur vie meilleure, c'est extraordinaire.
Lutte contre la corruption au Cameroun, le ministre de la Justice, Laurent Esso, a dressé le bilan du TCS, le tribunal criminel spécial anticorruption créé il y a 3 ans. Selon le ministre, 146 condamnations et 40 non-lieux ont été prononcés et 3,1 milliards de francs CFA détournés de fonds publics ont été récupérés. Certains accusent cette juridiction d'être instrumentalisée par le pouvoir pour des règlements de comptes politiques.
La Minute Éco, merci Claire.
C'est lundi, c'est plein feu sur les stades, sur VOA Afrique. Salut Eric Manirakiza.
Bonsoir Gabi.
Football d'abord. L'arrivée de Issa Hayatou au siège de la FIFA, repoussée à mercredi.
Justement, la Fédération internationale l'a déclaré aujourd'hui et Issa Hayatou est en tournée en Afrique au micro de notre correspondant à Yaoundé. C'est comme cela qu'on prononce Yaoundé, pas à Yaoundé. Moki Edwin Kinzeka, le président par intérim de la FIFA, défend son intégrité.
S'il y avait de corruption, il n'allait même pas me confier la FIFA maintenant. Ils inventent des choses. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose au niveau de la FIFA, les premières personnes qu'on indexe, c'est d'abord les Africains. Et quand la FIFA a initié des enquêtes avec le procureur américain, là, le Garcia et tout, aucun Africain n'a été cité dans cette malversation qu'on veut nous coller volontairement. Mais pour juste salir ce petit Africain qui est maintenant à la tête de la FIFA, on va dire « Ah non, il a pris, il a fait ceci, il a fait cela ». C'est faux, je suis tranquille, je n'ai aucun problème de ce côté.
Gabi, il est allé peut-être rencontrer son marabout pour mieux diriger la FIFA, n'est-ce pas ?
Ah, ça, on ne le saura jamais. Pelé reconnaît les difficultés de la Seleção.
Ah oui, le triple champion du monde a avoué l'impuissance de la Seleção.
Je suis vraiment déçu, on a perdu 2-0 face au Chili.
Ah oui, cette sélection a débuté de manière désastreuse. Sa campagne de qualification, vous venez de le dire, 2-0 contre le Chili et sa première face à cette équipe depuis 15 ans, jeudi dernier à Santiago. Mais le roi Pelé croit qu'individuellement, le Brésil avait toujours les meilleurs joueurs du monde. Et il a dénoncé ce qu'on appelle les agents, que les joueurs appartiennent aux agents, pas au club.
Parlons rapidement de cyclisme, Tour du Faso 2015.
Le doute est levé, c'est le 30 octobre que le Tour va démarrer. Et l'an passé, il a été annulé à cause d'Ebola. Et dernièrement, le putsch avorté a failli gâcher cet événement, Gabi.
Merci Eric Manirakiza pour cette page sport. Rappelons qu'Eric sera à notre compagnie à 19h TU pour Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Comme chaque jour, de lundi au vendredi, nous sommes en votre compagnie en direct de Washington, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, le Burkina.
La menace terroriste inquiète. Jusqu'à récemment, le pays semblait épargné par les turbulences qui secouaient ses voisins maliens et nigériens. Mais la dernière attaque de la gendarmerie de Samoro-Gouane a fini de convaincre l'état-major général des armées que le Burkina Faso était lui aussi visé par des groupes terroristes. Les populations sont inquiètes et l'armée, tout en se déployant pour assurer la sécurité des populations, en appelle à la collaboration informative. De Ouagadougou, le point avec Zoumana Wanogo.
Kidnapping d'un ressortissant roumain à Essakane, dans la même zone nord du Burkina, attaque de la brigade de gendarmerie de Oursi. Il y a quelques jours de cela, attaque cette fois-ci à l'ouest du pays de la brigade de gendarmerie de Samoro-Gouane. En conclusion de tout cela, le chef d'état-major général des armées burkinabées parle de terrorisme. On écoute le général Pengrenoma Zagré.
C'est un groupe d'individus dont nous cherchons à préciser l'identification, mais le mode opératoire est celui, en tout cas, est un mode terroriste, et donc caractérisé comme tel. Attaque subite dans une brigade de gendarmerie des forces de défense et sécurité accomplissant leur mission. Et nous avons vu, au regard du constat sur le terrain, que ceci ne peut être que l'œuvre de groupes terroristes. Et je voulais saisir cette occasion pour lancer l'appel à tous les habitants, toutes les populations à travers le territoire national, afin que chacun se sente concerné et impliqué afin d'être un acteur de renseignement.
Peur, angoisse, mêlé d'espoir que les Ouaralais, les habitants de la capitale burkinabé, vivent cette situation juste après le cauchemar du coup d'État manqué. Voici des avis.
Je suis trop inquiet. En tout cas, l'État-major, vraiment, je le félicite pour ça. Si les gens donnent l'information, ça va aller. J'invite tout le monde, les Burkinabés, tout le monde. Si tu vis en Afrique ou dans le monde, là, s'ils voient ces cas-là, ils n'ont qu'à signaler. Des trucs bizarres seulement. Tu vois quelqu'un, tu le comprends, il est bizarre, il faut signaler. Même si c'est ton ami, s'il est bizarre, il faut signaler.
Au Burkina, ici, on attend les terroristes qui sont en train de tirer les gens. Cette situation, ça nous fait peur. On ne sait pas exactement si ce sont les terroristes ou pas, mais ça nous inquiète, quoi. C'est vrai que je suis à Ouagadougou. C'est très loin de Samoro-Gouane, mais nous avons peur de la situation présentement.
On a entendu ça, c'est des djihadistes, mais c'est le quoi, là? J'espère que la transition va voir et essayer, ils vont savoir comment ils vont faire pour pouvoir nous mettre en sécurité. On sait que notre armée est plus forte. On croit à notre armée, ils vont tout faire pour pouvoir nous met en sécurité.
Non, moi je pensais que ce sont les terroristes. On pensait que c'était la RSP en gros, qui sait. Si je vois un truc bizarre, je vais appeler la gendarmerie, les dire ce qui se passe quoi, pour qu'ils viennent intervenir. Ça peut aider.
Quand j'ai entendu la nouvelle, ça nous choque très fort. Si les Burkinabés ensemble travaillent de main à main, c'est à nous de travailler. Si on dit la sécurité, c'est nous tous. L'islam n'est pas recommandé d'aller tuer des gens.
Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées, a dit l'état-major général des armées, pour assurer la sécurité et la quiétude des populations en collaboration avec les FDS du Mali voisin. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et nous partons maintenant au Tchad, alors que le pays est frappé par une crise financière. Le pouvoir et l'opposition ne parlent pas le même langage.
La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, réunie le week-end dernier à N'Djamena, a rejeté la feuille de route adoptée par le gouvernement et ses partenaires. Ce plan visait à mobiliser les ressources pour faire face à la crise. Écoutons la correspondance d'André Komadjingar.
Geler les indemnités des agents de certaines institutions de la République envisagées par le gouvernement est une manière de les faire payer pour la gabegie et la dilapidation des ressources financières du régime du président Déby. C'est ce qui ressort de la déclaration commune issue de deux jours de réflexion des membres de la CPDC, Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, axée sur le ferme engagement pour le changement en 2016. Le porte-parole par intérim de la CPDC, Gali Ngouté Gata, estime que le gouvernement doit orienter sa stratégie de mobilisation de ressources ailleurs.
Depuis un certain temps, le gouvernement n'a pas regardé comment est-ce qu'en dehors du pétrole, nous pouvons faire des recettes pour payer nos fonctionnaires. Alors qu'avant le pétrole, jusqu'à 2003, on vivait avec des ressources ordinaires tirées des douanes et des impôts. Dès que le pétrole est arrivé dans notre pays, le gouvernement a abandonné ce secteur des douanes et des impôts, ne concentrant les dépenses que uniquement sur le pétrole. Les recettes pétrolières, là, le gouvernement a dépensé 500 millions de dollars pour acheter uniquement l'armement. Mais le premier responsable, c'est les dépenses du président de la République. À chaque mission, c'est des milliards qui s'en vont. Donc, pourquoi l'orthodoxie financière ne s'adresse pas au président lui-même avant que ça ne concerne d'autres secteurs? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas permettre qu'on coupe les salaires des pauvres gens alors que le président de la République lui-même, qui dépense sans retenue, n'est pas du tout concerné par les mesures du gouvernement.
Pour minimiser les dépenses, la CPDC propose plutôt le dégraissage des effectifs de l'armée et la dissolution de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, Kalingote Gata.
Les dépenses de l'armée occupent 12% du PIB, alors que l'éducation nationale n'occupe que 1,25 et la santé 1,05 du PIB. Pourquoi? C'est des choses inacceptables dans un pays pauvre comme le nôtre. Il y a 6 camps militaires à N'Djamena. Mais ça correspond à quoi? On doit non seulement dissoudre la DGSI, parce que c'est une force spéciale à la disposition du président de la République, c'est des recettes en moins puisque c'est puiser des ressources du pétrole. Mais en plus, on doit démilitariser la ville de N'Djamena.
La CPDC rend responsable le régime en place de la gestion clanique des ressources publiques, l'absence de toute politique économique entraînant la navigation à vue dans la gestion des biens publics et le bradage des entreprises de l'État qui sont, selon elle, les facteurs déclencheurs de cette crise financière. André Kodmadingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
L'économie centrafricaine de nouveau mise à mal par la récente flambée de violence dans la capitale Bangui. Aucun secteur n'est épargné. Recrudescence de l'insécurité, la hausse des prix et la rareté de certaines denrées alimentaires sur les marchés sont le quotidien des Banguissois au lendemain de ces violences meurtrières. Dossier suivi à Bangui par notre correspondant Freeman Sipila.
Bangui est aujourd'hui asphyxié par les répercussions des tueries de fin septembre et début octobre 2015. L'insécurité a repris de plus belle dans certains arrondissements malgré le couvre-feu imposé par les autorités de la transition. Première conséquence visible, la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires sur les marchés, résultat direct de la pénurie ou de la rareté de ces denrées. Ici au marché central, situé au centre administratif de Bangui, un kilo de viande de bœuf qui coûtait 3000 francs CFA se vend aujourd'hui à 7500 francs CFA. Lotine Balezou est venue s'en approvisionner mais n'arrive pas à supporter le coût.
Au centre-ville, le prix d'un kilo de viande s'élève maintenant à 7500. Partout même au marché combattant, on ne peut pas en parler. Et également qu'au PK12, tout a augmenté. Tout a augmenté sur tous les marchés de Bangui. Du coup, ça nous a mis à terre quoi. Et on ne sait comment s'en sortir.
De leur côté, les bouchers se disent confrontés à des difficultés pour acheter des bœufs à l'intérieur du pays en raison de multiples tracasseries imposé par des hommes armés. Moïse Edmond Ouzia est président du collectif des bouchers centrafricains.
Depuis, on n'a pas eu le temps de voir le marché à bétail proche de Bangui. Il faut effectuer des voyages dans la République pour avoir des bœufs. Et nos frères se donnent de la peine, avec tous les risques, de faire ce déplacement dans la République. Mais quand ils achètent d'autres, ils ne peuvent pas revenir librement. Sur le passage, il y avait ces forces nuisibles, que je dirais les Antibalaka, les Séléka, qui sont là et qui empêchent même celui-là de passer avec les bœufs.
Rassurant que le gouvernement est au parfum de toutes ces difficultés, le ministre délégué à l'élevage, Mahamad Taïb Yacoub, a promis des actions urgentes dans les jours à venir. Autre conséquence de cette nouvelle situation d'insécurité dans le pays, cette nouvelle décision d'arrêt de travail des camionneurs centrafricains desservant l'axe Bangui-Garambulaï. Prise de position qui fait suite aux récentes attaques d'hommes armés contre des véhicules du dernier convoi en provenance de la frontière avec le Cameroun. Attaque au cours desquelles deux conducteurs ont trouvé la mort et 6 autres grièvement blessés. Dimanche, Wilfried Ngissimalé, membre de l'Union syndicale des conducteurs centrafricains.
Ce n'est pas la première fois. Quand la MINUSCA nous donne des garanties de sécurité, nous disons toujours à nos collègues, prenez la route, on verra, prenez la route, on verra. Malheureusement, dans ces derniers temps, c'est devenu encore plus grave. Donc, il n'y a pas une solution que ça.
Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le gouvernement de la transition, lui-même en incapacité de donner une réponse satisfaisante. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Crise migratoire en Europe, notre série cette semaine nous emmène en Italie, notamment en Sicile. L'île italienne est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour tous les désespérés qui rêvent d'une vie meilleure loin de l'Afrique. Reportage de l'envoyé spécial de VO Afrique, Nicolas Pino.
Chaque jour ou presque, le rituel est le même dans un port sicilien. De Pozzallo à Messine, en passant par Augusta ou Catane, un navire accoste avec à son bord des passagers un peu particuliers. Le regard perdu, emmitouflé dans des couvertures de survie, ils s'apprêtent à poser le pied sur cette terre européenne dont ils ont tant rêvé. Érythréens, Soudanais, Maliens ou Libyens, ils débarquent par centaines en Italie. Le bateau norvégien Siem Pilot a secouru 239 migrants la semaine dernière. Le navire britannique Enterprise a lui sauvé plus de 650 personnes des eaux de la Méditerranée. On écoute le commandant du bateau norvégien Siem Pilot, Tore Barstad.
Nous recevons des appels de détresse, parfois passés depuis la terre ferme par les passeurs. Malgré les patrouilles et les nombreux bateaux européens présents dans la zone, la traversée reste dangereuse. On ne peut pas être partout à la fois et sauver tout le monde. C'est une loterie malgré nos systèmes de surveillance sophistiqués et nos radars.
Les opérations Triton ou Mare Nostrum ont permis de faire diminuer le nombre de morts dans la zone. On a quand même enregistré depuis le début de l'année plus de 3000 décès. Effet pervers de ces missions de sauvetage, les passeurs expliquent désormais aux migrants que le voyage est plus sûr en raison de la présence de ces navires européens. Un bien mauvais argument de vente. Les trafiquants profitent aussi de l'occasion pour limiter encore plus le peu d'essence qu'ils mettent dans les embarcations de fortune. Les autorités européennes cherchent à tout prix à identifier, arrêter et traduire en justice les passeurs qui opèrent des deux côtés de la Méditerranée. Et Nicolas Pino en Sicile pour VOA Afrique.
Rendez-vous sur notre site web voaafrique.com pour retrouver notre dossier spécial « Migrants, l'Europe à tout prix ».
Cap sur le Bénin pour parler de la rentrée scolaire avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur. Attendez.
Pendant deux lunes tout entières, la petite école a dormi et semble jouer les prolongations, surtout dans le public. École déserte ou encombrée d'élèves qui, pour le moment, dans la fièvre des retrouvailles, s'amusent allègrement sous le regard désabusé des parents qui craignent que l'année ne soit prise en otage par des grèves perlées. Mieux, dans certaines écoles, c'est à la rentrée qu'en plein centre-ville de Cotonou, les travaux sont en cours pour réfectionner des classes. À cela s'ajoute une pénurie d'enseignants.
Depuis près de 4 ans, ce problème se répète.
L'année passée, on avait 4 manquants d'enseignants. Et c'est les parents eux-mêmes qui ont cotisé. Nous payons 36 000 francs par mois pour chaque répétiteur. Nous avons pris 4. Cette année-ci, maintenant, ils ont encore affecté 2 enseignants. Donc, on a 6 manquants maintenant. Nous prions le maire de Cotonou d'avoir pitié de ses enfants, de faire diligent, de tout faire pour que le travail puisse finir dans cette semaine, pour que le lundi prochain, ses enfants puissent recommencer les classes.
Dans le privé, c'est une autre paire de manches. Les élèves reçoivent déjà les cours, mais les fondés de ces écoles privées ne cachent pas leurs inquiétudes et espèrent des lendemains meilleurs pour l'école béninoise.
Nous avons beaucoup d'anciens du public avec qui nous travaillons. Nous avons des parents qui sont dans le public, des enfants qui sont dans le public et nous sommes informés que les cours n'ont pas bien repris dans le public. Ce n'est pas parce que nous avons commencé nous autres que nous allons dire que tout a bien commencé, que l'année sera une année rose. Nous avons peur parce que quand le public, tous, nous aussi nous avons des inquiétudes.
Une rentrée apaisée, c'est le cri de cœur des parents d'élèves qui ne veulent plus d'une éducation à la lance-pierre qui forme des enfants bien en dessous de la moyenne. Mais pour le moment, les enseignants continuent de durcir le ton, surtout ceux du front des trois ordres de l'enseignement.
Ginette Fleur Adandé à Cotonou.
C'est la fin de cette édition. On remercie Joselle Morissin qui a dirigé la mise en onde ce soir. À la présentation, c'était Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Il faut dire merci aussi Morgane à Robert Wagner qui était à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.